Alors Stéphane, tu es ingénieur réseau informatique, militant en liberté, des libertés numériques et donc auteur du livre Cyberstructure, Cyberstructure Internet, un espace politique, donc qui parle des relations entre l'architecture technique de l'Internet et la politique, dans le sens vie de la cité, et notamment les droits humains. Alors je cite tout de suite le site web sur lequel vous pouvez trouver les informations concernant le livre, cyberstructure.fr. Il est publié aux éditions CF Éditions, donc le site des éditions. C'est cfédition avec un s.com, environ 270 pages, 22 euros, autour de 22 euros dans toutes les bonnes librairies et notamment les librairies de quartier. Il y en a beaucoup à Paris et ailleurs. La version e-pub devrait être disponible en mars 2019, donc bientôt. Stéphane me confirme.
Devrait.
Et vous pourrez l'obtenir évidemment directement sur le site de l'éditeur. Alors, l'objectif de Stéphane.
Et sans DR.
Et sans DRM, donc sans mesure, sans menottes numériques qui empêchent un certain nombre de libertés fondamentales. Donc l'objectif de Stéphane, à travers ce livre, est de parler des parties moins visibles de l'Internet, celles dont on parle un peu moins souvent, et notamment de son infrastructure. Alors c'est forcément un peu technique, mais ce livre n'est pas normalement destiné justement aux informaticiens ou aux informaticiennes, mais disponible, enfin, destiné à l'ensemble du grand public. Donc il comporte une première moitié d'explications sur le fonctionnement de l'Internet. Et la seconde moitié est composée d'une série d'études de cas sur des sujets politiques que tu trouves qui ne sont pas forcément suffisamment traités, perdus aujourd'hui dans les débats entre Google, Facebook, Twitter et autres. Alors, première question, Stéphane, tu dis un blog de référence depuis, alors, je ne sais pas combien d'années d'ailleurs.
Sous sa forme actuelle, oula, ça doit bien ça doit faire 15 ans, mais avant, enfin, il y avait certains textes qui étaient déjà faits avant.
Alors, une quinzaine d'années, donc le site, c'est boardsmeyer.org. Alors, c'est un site de référence parce que pour toutes les personnes qui s'intéressent au sujet technique de l'Internet, on trouve des explications très détaillées et très accessibles, qui vont même jusqu'au détail, souvent, pour qui intéressent les personnes les plus pointues de la ligne de commande. Alors, première question, finalement, pourquoi as-tu eu envie de publier un livre, qui plus est un livre papier, alors que tu tiens un blog depuis une quinzaine d'années sur ces sujets-là?
En fait, l'idée ne vient pas de moi, mais de mon éditeur Hervé Lucronier. Ça fait plusieurs années qu'il insiste pour que je publie un livre, parce que quand il m'entendait me plaindre du fait qu'on ne parlait pas bien d'Internet, ou pas assez, ou pas des bonnes choses, ou pas de la bonne façon, il me disait: mais justement, il ne tient qu'à toi que ça change. Tu devrais faire un livre et je l'éditerai. J'ai hésité pendant longtemps, ça fait du travail, et puis c'est un monde que je ne connais pas bien, mais je crois que ce qui est surtout intéressant dans le processus d'écriture d'un livre, c'est que c'est un travail collectif. Le livre est écrit par l'auteur, mais il est discuté avec l'éditeur, il est relu par plusieurs relecteurs et relectrices qui ont fait un très bon travail, très incisif. Il est mis en page par un professionnel et c'est donc un objet différent d'un blog où il y a une seule personne qui fait tout, ce qui limite un peu la qualité du travail qui peut être produit. Donc pour un livre, indépendamment du fait que ce soit sous forme papier ou numérique, c'est surtout un contenu qui reflète un travail d'équipe.
Ok, et en plus, ça permet d'atteindre un public qui ne consulte pas forcément en fait ton blog. C'est un peu l'objectif aussi de ce livre, c'est de mettre à portée de tout le monde des concepts techniques sur Internet et les relations avec la partie, on va dire, politique et les droits humains.
J'espère que ce sera comme ça, mais malheureusement, le marché du livre et la façon dont il est structuré, c'est difficile. On peut commander ce livre dans toutes les librairies, effectivement, mais il faut le commander. Il n'est pas,
Oui.
à part en quelques librairies exceptionnelles, comme un livre ouvert, mais
Qui est
sinon,
dans le 11e arrondissement de
oui.
Paris.
Mais sinon, il n'est pas disponible directement, donc il ne peut pas y avoir d'achat d'impulsion ou de gens qui, en
Ah oui.
traînant, en surfant, tombent par-dessus. Il faut que les gens le commandent. Ça limite les possibilités de diffusion, mais bon. Tout le monde ne peut pas être Michel Houellebecq, donc c'est pas grave.
Donc, en tout cas, on encourage les personnes qui écoutent cette émission et qui auront envie de lire le livre à le commander auprès de leur libraire de quartier, car, comme tu le dis, on ne le trouve pas forcément en rayon directement. Alors, une fois que. Donc, je comprends bien évidemment l'intérêt d'écrire un livre sur ce sujet-là, qui est un complément de ce blog et ce travail collectif, et avec Hervé Lecronier, qui est quelqu'un qui est depuis très longtemps impliqué dans, on va dire, le mouvement de la culture libre. Qui en plus, je crois, a été récemment interviewé dans un documentaire qui va passer sur Arte autour de la révolution justement Internet et la révolution du partage. Je dis le titre de mémoire, donc peut-être que je me trompe. Donc première question, enfin, comment tu définirais justement Internet? Pour des gens qui ne connaissent visiblement, pour beaucoup, en fait, pour qui beaucoup le mot-clé c'est web, ou les autres mots-clés c'est Google, Facebook, Amazon.
Du point de vue de l'utilisateur, c'est le réseau sur lequel il peut y avoir des services comme le site web de la radio causecommune.fm qui permet de l'écouter en ligne ou d'autres services plus ou moins sympathiques ou plus ou moins utiles. Maintenant, du point de vue des gens qui le construisent, la caractéristique principale d'Internet et qui est à la base de beaucoup de questions politiques qui y sont liées, c'est que c'est un réseau de réseaux. Ça n'est pas un réseau qui aurait été fait d'en bas par une entreprise ou un État qui aurait dit « Tiens, faisons un réseau, embauchons des gens, faisons des plans, trouvons un budget, faisons des réunions et finalement réalisons-le ». C'est plein de gens, plein d'acteurs qui ont construit leur bout de réseau et tous ces bouts sont fédérés entre eux, échangent du trafic et peuvent communiquer. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est en France abonné à SFR peut regarder le site web de l'université de Ulaanbaatar en Mongolie. Et ça fonctionne, et on ne s'étonne même plus que ça fonctionne. En fait, le miracle de l'Internet, c'est qu'on ne s'étonne même plus que ça fonctionne, alors que quand on sait ce qu'il y a derrière, on va au bureau tous les matins en se disant « c'est quand même dingue, ça marche encore ».
Ça marche encore. Et le réseau construit d'en haut, tu pensais par exemple au Minitel, quelque chose comme ça, c'est-à-dire
Par exemple, oui, au réseau téléphonique traditionnel qui était très fait d'en haut et géré d'en haut. Et Internet, lui, ne l'est pas et ça a tout un tas de propriétés qui viennent de là. Alors, des bonnes et des mauvaises. Les bonnes, c'est par exemple l'innovation sans permission. On va fêter le mois prochain le 30e anniversaire du web, ou plus exactement le 30e anniversaire de la première publication parlant du web. Personne n'a eu, enfin, Tim Berners-Lee et Caillou n'ont pas eu à demander une autorisation particulière.
Oui, ils ont une idée, ils l'ont mis en œuvre. Ça a fonctionné.
Et ça s'est fait également avec beaucoup d'autres grands succès de l'Internet. Je cite BitTorrent, par exemple, le système de distribution de fichiers. Ça, c'est des aspects positifs. Il y a des aspects négatifs aussi, ou en tout cas délicats. C'est qu'il n'est pas possible d'avoir une décision prise une bonne fois pour toutes et qui serait appliquée par tout le monde. Il faut convaincre tout un tas d'acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui peuvent même être concurrents. Et donc, dans des domaines comme la sécurité, par exemple, c'est extrêmement difficile d'obtenir que tout le monde fasse quelque chose. C'est un avantage aussi. Ça rend difficile à certains d'appliquer à l'Internet le niveau de contrôle qu'ils voudraient. Mais c'est aussi un inconvénient. Et régulièrement, les professionnels d'Internet se disent « Ah zut, ça serait quand même plus simple s'il pouvait y avoir un dictateur et que tout le monde applique ses ordres. » Mais l'Internet, pour le meilleur et pour le pire, ne fonctionne pas comme ça.
Alors, c'est un des intérêts du livre de voir ces points de tension entre côté positif et négatif de la technique, on va y revenir, et aussi du mode de fonctionnement, parce que donc, Internet est un réseau de réseaux géré par de multiples organisations, comme tu le dis, et non pas par une seule organisation. Il y a un deuxième point qui me paraît important et que tu cites dans le livre, je crois, ou c'est dans l'introduction qui est écrite par la préface par Zitom, c'est qu'Internet est un réseau qui relie des gens, des êtres humains entre eux. Et ça, c'est fondamental, des gens qui ont envie de faire des choses, de lancer des projets, de partager. Et c'est quelque chose, c'est sans doute peut-être le premier outil, mais on pourra y revenir tout à l'heure, qui permet de redonner le pouvoir, et notamment la liberté d'expression, et de créer des choses grâce à Internet. Et sans Internet, il n'y aurait sans doute pas de logiciel libre, de Wikipédia. Sans logiciel libre, il n'y aurait peut-être pas aussi l'Internet tel qu'on le connaît. Mais en tout cas, c'est sans doute une des forces d'Internet, cette mise en relation de personnes.
Oui, alors pour le logiciel libre, ça existait avant. Je me souviens de l'époque où Richard Stallman mettait des bandes magnétiques dans une enveloppe qu'il envoyait moyennant un paiement couvrant les coûts. C'était pas super pratique. Je me souviens aussi un collègue qui m'avait raconté comment il avait rapporté de Berkeley, deux bandes magnétiques avec Unix BSD pour les installer sur une machine en France. Il fallait prendre l'avion et ramener les bandes magnétiques. L'Internet a changé tout ça. Ça n'a pas inventé le logiciel
non,
libre.
Non, ça a permis cette diffusion.
Ça a permis une diffusion beaucoup plus large et beaucoup plus grande. Ça a contribué à son développement important. Mais il y a aussi d'autres réalisations collectives de l'Internet qui touchent peut-être un public plus large. Et là, bon, l'exemple classique, c'est Wikipédia. C'est un exemple un peu facile, mais en même temps, c'est vrai que c'est remarquable.
Qui a fêté récemment ses 18 ans, je crois, 2001.
Donc il est majeur maintenant.
Voilà.
Il est responsable maintenant.
Alors, dans ce livre, il y a une bonne part de technique. Et ton point de départ, c'est qu'il faut un minimum de compréhension de la technique pour pouvoir comprendre la deuxième partie, qui est la partie politique et la partie sociale. Donc, un peu de façon provocatrice, mais tu emploies la comparaison dans le livre, en quoi Internet est différent d'un réfrigérateur? Pourquoi il faut comprendre un peu la technique, et même, tu rentres assez quand même dans les détails de la technique, pourquoi il est important de comprendre la technique de l'Internet?
Mais le réfrigérateur, en général, on ne sait pas du tout comment il fonctionne, mais on connaît quand même deux ou trois trucs sur le réfrigérateur. Quelque chose d'aussi simple que le fait qu'il doit être branché, par exemple, pour fonctionner. Et souvent, en informatique, malheureusement, on a un niveau de non-connaissance qui est abyssal. Enfin, c'est une vieille blague que quand on signale une panne, il faut d'abord demander, vérifier si l'ordinateur est bien branché. Bon, on n'en est plus vraiment là, mais pendant longtemps, ça a été le cas. Mais surtout, la grosse différence, c'est que le réfrigérateur, c'est qu'une partie de nos vies. Toutes nos activités ne passent pas par le frigo. Il y a une activité importante, manger, qui dépend du frigo. Et encore pas dans tous les cas. Tout ce qu'on mange n'est pas passé par un frigo. Et puis le frigo n'a que peu de possibilités d'action. Bon, si, il peut chauffer plus, enfin refroidir plus ou moins, mais il ne peut pas donner son avis sur ce qu'on y met ou décider d'accepter certaines choses ou pas. Ça changera peut-être dans le futur d'ailleurs. Et la tendance à des objets connectés est assez inquiétante de ce point de vue-là, parce que dans le futur, on pourrait avoir effectivement, on pourrait imaginer un frigo qui, par exemple, signale à la police qu'on mange ou des choses de ce genre. Le genre de médicaments qu'on stocke. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, un frigo est un objet passif, et donc qu'on ait un frigo de telle marque ou de telle autre n'a pas une grande importance sur la vie. Internet, c'est complètement différent. D'abord, toutes nos activités passent par là. Le travail, la distraction, le militantisme, des relations simplement sociales, discussion avec les gens, tout passe par Internet. Donc déjà, il a un rôle dans notre vie beaucoup plus important que le frigo. Et l'autre différence aussi, c'est que pour accéder à Internet, on passe par tout un tas d'acteurs intermédiaires, des fournisseurs d'accès Internet aux plateformes de services que certaines personnes utilisent pour communiquer, en passant bien sûr par les logiciels qu'on utilise, qui sont aussi un intermédiaire. Et ces intermédiaires peuvent, et en pratique des fois, interviennent dans la communication, autorisant certaines, bloquant d'autres, modifiant les informations. Donc on est dans un rôle très différent du frigo. Le frigo qui poserait les mêmes genres de problèmes politiques, ça serait par exemple celui qui, j'avais dit, refuserait certains aliments ou modifierait les aliments qu'on a mis. L'Internet en est là. Et le fait qu'on soit obligé de passer par ces intermédiaires est un peu au cœur de tout un tas de problèmes de l'Internet.
Et le rôle des intermédiaires, on va y revenir dans les exemples qu'on va aborder ultérieurement, qui est évidemment un rôle fondamental. Dernière question plus générale sur le livre, avant d'aborder 3-4 sujets en détail. Ce livre s'adresse à toute personne, a priori. Est-ce qu'il faut des connaissances techniques préalables, ou une personne qui n'a pas de connaissances spéciales peut lire ce livre, selon toi?
Normalement, il est fait pour pouvoir être lu par des gens qui ne sont pas du tout informaticiens. C'est l'objectif. Maintenant, tous les gens qui ont essayé de faire de la vulgarisation savent que c'est un art très difficile. L'autre jour, je discutais avec l'auteur d'un livre qui parlait d'informatique, en l'occurrence de cybersécurité, et où il y avait beaucoup d'énormités dans le livre. Je lui reprochais ça. Il me disait « mais c'est pour un grand public ». Et je trouve cette excuse très mauvaise, parce que précisément quand on écrit pour des gens qui ne connaissent pas, il faut être plus rigoureux et non pas moins rigoureux, parce que la personne en face ne pourra pas corriger d'elle-même et croira aveuglément tout ce qu'on raconte. Donc la vulgarisation, c'est très difficile, parce qu'il faut être à la fois extrêmement rigoureux, plus même que quand on s'adresse à des experts, tout en étant pédagogique, tout en expliquant ce qui se passe. La partie de mon livre qui explique la technique pour qu'on comprenne la partie politique est à l'origine prévue pour être le tiers du livre. Elle a grossi, plutôt la moitié, au fur et à mesure que mon éditeur ou des relecteurs me disaient « Ah oui, mais là, tu parles d'adresse IP 3 fois et tu n'as jamais expliqué ce que c'était qu'une adresse IP. » Puis moi, ma première réaction, c'était « Ah bon, il faut expliquer ça aussi ?»
Tout le monde sait ce qu'est une adresse IP.
Eh ben non, tout le monde ne sait pas, donc il faut l'expliquer aussi. Et quand on explique un concept, il y en a un autre qui vient. Donc, une des conséquences de ce livre, c'est que j'admire beaucoup plus ces gens qui font de la vulgarisation, de la bonne vulgarisation, parce que je savais que c'était difficile, mais je me rends compte que c'est vraiment difficile. Donc, savoir si j'ai atteint l'objectif qu'elle soit lisible par un vaste public, je ne sais pas, l'auteur est mal placé pour en juger, j'attends l'avis des lecteurs là-dessus.
Oui, alors il faut sur le site d'ailleurs de Stéphane, donc boortsmeyer.org, vous n'hésitez pas à faire des retours. Parce que, bon, moi, j'ai lu le livre, mais j'ai quelques connaissances techniques, mais j'ai appris quand même beaucoup de choses parce que tu abordes énormément de sujets. Franchement, je ne sais pas si tu abordes tous les sujets que tu as voulu aborder, mais en tout cas, tu abordes énormément de sujets avec des exemples très précis à chaque fois. Et donc, quand il a fallu sélectionner quel sujet on allait aborder aujourd'hui, je me suis dit, tiens, de quoi on va parler, parce qu'il nous faudrait 3 ou 4 heures si on veut aborder tout. Et donc, n'hésitez pas à faire des retours et en tout cas à conseiller aussi ce livre à d'autres personnes, parce que je pense qu'effectivement, notamment toute l'explication sur la partie adresse IP et autres, ou le routage des paquets sur Internet, c'est quand même assez essentiel. Donc, dans ton livre, il y a cyberstructure, droits humains. Les droits humains, c'est en quelques mots, c'est quoi les droits humains ?
Les droits humains, c'est l'idée que leur incarnation la plus évidente, c'est la Déclaration universelle qui s'appelait des droits de l'homme à l'époque, qu'on appelle plutôt droits humains
aujourd'hui. Des droits humains aujourd'hui, oui. 1948.
Qui est votée en 1948 par les Nations Unies et qui, en théorie, est partagée par tout le monde, puisque tous les pays membres des Nations Unies, c'est à peu près tout le monde, l'ont signée. Ça, c'est la théorie. Les points importants des droits humains, c'est qu'ils fixent des limites à ce que un État, ou un autre groupe d'ailleurs, pourrait faire. C'est important ça permet d'éviter, par exemple, la tyrannie de la majorité ou un groupe qui dit, on est majoritaire, donc on a le droit de faire ce qu'on veut et on va persécuter, voire massacrer les autres. Les droits humains, le principe des droits humains, c'est qu'il y a des droits qui sont universels, qui concernent tous les êtres humains, indépendamment de leur couleur de peau, de leur culture, de leur pays, de leur genre, et qui sont automatique. Du seul fait qu'on est un être humain, on a ces droits-là.
On est un être humain, qu'on est né, on a ces droits-là.
Voilà. Donc, la politique ne se réduit pas à ça. Il y a des domaines vastes et il y a bien d'autres aspects. Mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est un socle minimum qui permet de regarder les problèmes politiques qui se passent sur Internet en ayant une certaine cohérence. C'est-à-dire, est-ce que tel ou tel changement qu'on envisage de faire, tel ou tel progrès ou telle nouveauté, est-ce que ça aide et renforce les droits humains ou est-ce qu'au contraire, ça les menace ? C'est clair que les droits humains ne sont pas tout. La Déclaration universelle, elle est rédigée en des termes assez vagues, assez généraux forcément, parce qu'elle est faite par des pays qui sont très différents. Mais c'est un point de départ et malheureusement aujourd'hui, plutôt menacé.
Alors, dans le livre, il y a un vieux débat dont tu parles dans le livre, c'est la neutralité de la technique. C'est-à-dire, est-ce que la technique est neutre ? Est-ce que l'infrastructure d'Internet doit jouer un rôle dans la protection de ses droits humains ou ne doit pas jouer un rôle ? D'ailleurs, tu expliques d'ailleurs qu'il y a un document officiel de l'IETF, alors tu nous expliqueras ce qu'est l'IETF, mais où il y a différentes positions par rapport à ça. Quelle est toi ta position par rapport à ce rôle que doit jouer l'infrastructure, la technique, les outils, les logiciels par rapport justement à cette protection de ces droits humains ? Est-ce que ça doit jouer un rôle ? Est-ce que ça doit jouer un rôle mineur, majeur, fondamental ?
En caricaturant, on peut dire qu'il y a deux positions extrêmes. L'une qui dit que la technique est complètement neutre et donc, par exemple, les ingénieurs, les gens qui écrivent le logiciel ne doivent pas se soucier de la question. Quelqu'un qui programme, il programme et il ne pense pas aux droits humains puisque de toute façon, son logiciel pourrait être utilisé par des gentils et par des méchants.
Et donc la responsabilité est sur la personne qui l'utilise.
Voilà. Et donc ça, c'est une position extrême. Il y en a une autre qui serait de dire qu'il faudrait faire une infrastructure technique, une cyberstructure qui rendrait impossible certaines actions et qui, par exemple, dans le cas des droits humains, rendrait impossible leur violation. Ou au contraire, si on a un point de vue plus fasciste, rendrait impossible, au contraire, de critiquer le pouvoir en place. Les deux positions... quelque part, toutes les deux sont fausses parce qu'elles oublient qu'il y a une interaction entre les outils et ce qu'on en fait. D'abord, on ne crée pas des outils au hasard. Ça prend du temps de développer du logiciel, développer une infrastructure comme Internet encore plus. Donc, on crée aussi ce qu'on demande et ce pourquoi il y a une demande des gens prêts à travailler. Et ensuite, les outils qu'on fait, à leur tour, changent le point de vue qu'on a, changent ce qu'on pouvait faire. Je suis bien sûr que ni les inventeurs de l'Internet... en même temps que la notion existe. Mais ni les gens qui ont travaillé au début de l'Internet, ni ceux qui ont travaillé au début du web, là on voit un peu mieux qui c'est, je ne pense pas qu'ils prévoyaient tout ce que ça donnerait. Les premiers plans qui étaient faits explicitement pour l'usage de l'Internet au début, c'était de se connecter à distance sur un gros ordinateur pour y taper des commandes et à l'extrême rigueur de se passer des fichiers. Le succès d'une invention se mesure souvent au fait qu'elle a dépassé ses inventeurs et qu'elle est utilisée dans un but imprévu. Donc, cette interaction compliquée entre les outils et l'usage qu'on en fait fait que les deux positions extrêmes sont aussi fausses l'une que l'autre. La technique n'est pas neutre parce qu'elle influence déjà ce qu'on peut faire, ce qu'on permet. Avant Internet, on ne pouvait pas, quelqu'un qui avait des idées dans un pays donné ne pouvait pas diffuser ses idées sur toute la planète. C'est tout simplement impossible. Donc la technique l'a rendu possible, mais elle ne l'a pas non plus fait que ça marche automatiquement. C'est les gens peuvent ne pas saisir de cet outil, ne pas s'en servir. Donc la réalité est quelque part dans une interaction entre l'outil et l'usage, et qui fait que, en tout cas, on ne peut pas dire que la technique soit neutre. On ne peut pas dire que la technique soit neutre, puisque si elle l'était, on ne pourrait pas justifier tout le budget qu'on dépense pour développer ces techniques. Si on dépense autant d'argent, c'est bien parce que ces techniques servent à quelque chose, elles ont un rôle, et donc elles ne peuvent pas être neutres.
Donc elle est souple quelque part, je crois que tu emploies ce terme à un moment dans le livre, et finalement la responsabilité est partagée entre les personnes qui créent cette technique et les personnes qui l'utilisent, donc entre les techniciens et puis les utilisateurs, utilisatrices. C'est un petit peu ta position.
Oui, par exemple, les auteurs de logiciels ne sont pas responsables de tout ce qui est fait avec leur logiciel, mais ils ne peuvent pas non plus dire « je suis complètement irresponsable ».
Voilà. Alors, on va continuer sur la neutralité un peu plus, peut-être un peu en détail, parce que c'est un sujet important dont beaucoup de gens parlent, et notamment, je crois que c'est un sujet vaste et que beaucoup de gens le résument souvent au fait de faire payer Google, comme tu le dis, ou comme d'autres, notamment le gouvernement actuel et les précédents, hein, et, enfin pas que Google, hein, d'ailleurs tous les autres. Et donc il y a tout un chapitre dans le livre avec une analogie notamment que je n'avais jamais entendue, que je ne connaissais pas sur l'époque de Cro-Magnon de la Rivière. Donc cette notion de neutralité des réseaux, est-ce que tu peux nous la présenter et notamment les impacts que ça a concrètement aujourd'hui pour les personnes qui utilisent Internet ?
Si je me souviens bien, en plus, l'histoire de Cro-Magnon venait d'une discussion avec Andrea Fradin, qui était journaliste à Rue 89. Je crois que c'était elle qui l'avait suggéré.
Et qui s'est reconvertie en développeuse depuis.
Oui. Donc, le mot neutralité, effectivement, désigne beaucoup de débats différents. Je voudrais déjà partir de ce qui est le plus évident et le plus souvent oublié. La base de l'idée de neutralité de l'Internet, de neutralité du réseau, c'est-à-dire que l'intermédiaire ne doit pas abuser de son pouvoir et ne doit pas modifier la communication ou l'arrêter selon ses intérêts à lui. Ça sera plus facile à expliquer par un contre-exemple. Il y a quelques mois, les internautes clients d'Orange en Tunisie se sont aperçus que Orange modifiait les pages web qui étaient envoyées d'une machine à l'autre en y insérant des publicités. Petit aparté technique pour les pages qui n'étaient pas en HTTPS, bien sûr. Les autres, ça aurait été plus difficile. Fin de l'aparté technique. Donc quelqu'un, le gérant du site web, décidait d'envoyer un certain contenu vers l'internaute. L'internaute voulait accéder à ce contenu. Et sur le trajet, un troisième homme, un intermédiaire, se permettait de modifier ce qui avait été fait, comme si la poste qui envoie les exemplaires de mon livre en province enlevait certaines pages, rajoutait des notes, raturait, des choses comme ça.
Ou comme s'ils ouvraient le courrier des gens pour ajouter de la publicité.
Ouais,
voilà.
Exactement.
C'est exactement ça.
Et ça, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et l'idée de base de la neutralité, c'est que ce genre de choses ne doit pas être permis. Ne doit pas être permis, et ça devrait même pas avoir besoin d'être expliqué. Parce que quand on dit aux gens, mais c'est comme si la poste ouvrait une lettre, mettait un prospectus publicitaire, refermait la lettre, les gens disent, ah ben oui, mais ça serait scandaleux. Ben oui, ben c'est aussi scandaleux pour Internet. Donc, comme beaucoup de débats complexes, l'intensité du débat, le nombre d'arguments échangés fait qu'on oublie souvent les fondamentaux. Et là, les fondamentaux sont extrêmement simples pour la neutralité de l'Internet. C'est bas les pattes. Bas les pattes, je veux que le réseau transporte mes données d'une machine à l'autre, d'une personne à l'autre, et que la personne ou l'organisation qui est en position d'intermédiaire n'en profite pas pour le modifier. Ça, c'est le premier point important dans l'histoire de neutralité, et qu'on oublie toujours, parce que le débat après se complexifie, il y a plein d'autres aspects, mais ça ne doit pas faire perdre de vue le socle de base.
C'est que l'intermédiaire ne doit pas sortir de son rôle, qui est un rôle d'intermédiaire, donc de transporter de l'information sans y toucher.
Exactement.
En fait. D'accord. Et alors, il y a plusieurs catégories de neutralité. On parle de la neutralité de l'Internet, les plateformes. Laquelle aujourd'hui, est-ce que tu peux nous prendre un exemple? Bon, tu viens de nous prendre un exemple concret avec Orange en Tunisie, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples de remise en question justement de cette neutralité? Et deuxième question, quelle est la position aujourd'hui au niveau gouvernement français et au niveau européen? Est-ce qu'il y a une défense de la neutralité des réseaux? Ou au contraire, est-ce qu'on laisse faire les intermédiaires techniques?
Alors, il y a d'autres aspects effectivement derrière le discours sur la neutralité. Il y a par exemple le problème effectivement de est-ce qu'on peut faire une offre d'accès Internet qui ne donnerait accès qu'à certains services qui, par exemple, auraient payé pour ça. On pourrait envisager, d'ailleurs, des projets dans ce genre-là ont eu lieu, enfin il y en a eu beaucoup, le plus connu est le projet de Facebook, internet.org. Rebaptisé Free Basics après, qui était de faire un accès Internet qui soit gratuit, mais on ne puisse accéder qu'à Facebook. Puis après, dans la deuxième itération, Facebook a dit, ah non, Facebook et Wikipédia, pour répondre aux critiques qui avaient eu lieu. Mais on peut aussi imaginer un fournisseur d'accès qui ne donnerait accès non pas à tout l'Internet, mais simplement à certains services qui ont payé le fournisseur d'accès, ce qui permettrait au fournisseur d'accès d'être payé à la fois par ses clients et par les services auxquels il donne accès. Si on n'a pas, et ce genre de projet risque d'arriver, et il aurait des conséquences très graves, notamment parce qu'il bloquerait cette innovation qui est la caractéristique de l'Internet. C'est-à-dire, si on veut demain qu'il y ait une meilleure solution que Google, par exemple, au début, ça sera un truc petit, pas capable de directement rivaliser avec Google. Et pour qu'il ait des chances, il faut que cette future organisation puisse être présent, accessible par les internautes. Aujourd'hui, si je crée un système concurrent de Google, j'ai à peu près les mêmes possibilités. Les internautes peuvent accéder à mon service comme à celui de Google et ils peuvent choisir. Si on n'a pas la neutralité de l'Internet, on pourrait avoir des fournisseurs d'accès qui n'offrent accès que à ceux qui les ont payés pour ça. Et de ce point de vue-là, les gros en place paieront et seront accessibles, et les petits, rien du tout. C'est un autre aspect de la neutralité de l'Internet.
Et est-ce que cette neutralité de l'Internet est plus mise en danger sur les mobiles que sur la télé, que sur l'informatique telle qu'on le connaît anciennement? Parce que j'ai l'impression que sur les mobiles, il y a plus de violations de cette neutralité des réseaux.
Oui, beaucoup plus. La grande majorité des cas documentés de violation de neutralité ont été sur les réseaux mobiles ou sur les abonnements aux réseaux mobiles. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une qui est que les machines terminales, l'ordiphone, le smartphone dans le cas du mobile, c'est beaucoup plus fermé que ce qui existe dans le monde de l'informatique traditionnelle, sur le bureau ou sur les genoux. Et donc, étant plus fermé, il y a moins de possibilités pour l'utilisateur de voir ce qu'il fait. Il y a aussi des arguments de nature. Il y a aussi une rhétorique différente qui est que l'espace dans lequel se font les communications sur le mobile, la radio, est un espace partagé. Et donc, il est nécessaire de prendre des mesures, évidemment faite par le fournisseur d'accès Internet, par l'opérateur, sur décider tout seul sans concertation, et des mesures pour assurer une meilleure gestion de cet espace. Donc on a effectivement des menaces plus grandes là-dessus. C'est aussi qu'il y a moins de compétition. En France, il y a quatre opérateurs de réseau mobile. Les opérateurs virtuels ne comptent pas puisqu'ils ne peuvent pas décider ce qui se passe sur le réseau, alors que des fournisseurs d'accès Internet sur des réseaux fixes, il y en a beaucoup plus. Et à la limite, par exemple, chaque université est un fournisseur d'accès pour ses étudiants. Donc il y a beaucoup plus de possibilités qu'il n'y a pas dans le monde du mobile. Donc quand il n'y a pas de vraie concurrence, la tentation est forte de s'entendre pour bloquer ensemble. Et donc, globalement, la neutralité est beaucoup plus menacée en accès mobile sans qu'il y ait aucune raison technique valable pour ça.
Et donc, dernière question, voilà, avant la pause musicale, est-ce qu'il y a une défense de la neutralité du net par les gouvernements français, européens, ou est-ce qu'au contraire, il y a un laisser-faire
Alors, un des éléments du problème, c'est que les fournisseurs d'accès, les opérateurs de mobile, ça, sont plutôt locaux, alors que les services auxquels accèdent les internautes sont souvent étrangers, souvent états-uniens. Donc, il y a souvent une tentation de favoriser ces capitalistes nationaux plutôt que les capitalistes étrangers, qui peut mener effectivement à des violations de la neutralité. Et actuellement, enfin, quand j'entends des gens dire qu'il faut prendre des mesures pour éviter que Google capte trop de la valeur de la part de gens qui Par ailleurs, dans leur discours politique, se prétendent libéraux, c'est-à-dire disent qu'il faudrait qu'il y ait moins de règles, qu'il y ait moins de contraintes, et qui donnent explicitement comme justification à leur politique un résultat. On veut favoriser telle entreprise et pas telle autre. C'est effectivement un peu inquiétant. D'autant plus que c'était parfois aussi justifié par les mauvaises pratiques bien réelles des gros opérateurs de services états-uniens. Mais comme on l'a vu, les opérateurs nationaux ne font pas mieux quand ils en ont la possibilité.
D'accord, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Energia Fulminante de Javiera Baró Ensemble et on se retrouve après.
Commune.
D'écouter Energia Fulminante de Javiera Baró Ensemble. Bon, j'espère que je le prononce bien, mais ça ne doit pas être le cas. C'est donc une musique libre, hein, comme toutes les musiques que nous diffusons sur Libre à vous. Donc, cette musique est en licence Creative Commons partagée à l'identique. Les références sont sur le site de l'April, april.org. Donc, vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis toujours évidemment avec Stéphane Bortzmeyer pour parler de son livre Cyber Structure. Donc, juste avant la pause musicale, nous parlions de neutralité. Alors, on a parlé rapidement, et je précise d'ailleurs que nous abordons rapidement 2-3 sujets aujourd'hui dans l'émission. C'est pour vous donner envie de lire le livre, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés beaucoup plus en détail, et que probablement dans d'autres émissions ultérieurement, nous reviendrons sur chacun de ces sujets-là pour les détailler un peu plus avec plusieurs personnes invitées. Alors, on va aborder un nouveau sujet qui est important par rapport aux droits humains, c'est l'internationalisation. Alors, qu'est-ce que signifie l'internationalisation en informatique ?
Ça désigne l'ensemble des techniques et procédés qui font que un logiciel ou un système informatique, plus qu'un simple logiciel, puisse être utilisé par des gens de cultures différentes, de langues différentes. Il y a un aspect évident, c'est que par exemple les messages qu'infiltre le logiciel doivent pouvoir être traduits dans plusieurs langues, et des aspects moins évidents, par exemple le fait que les codes couleurs qui sont utilisés à certaines interfaces graphiques peuvent être dépendants de la culture et peuvent devoir s'adapter. C'est historiquement, l'informatique est issue de pays anglophones, ça se reflète dans le vocabulaire, et encore aujourd'hui, j'ai bien peur qu'on enseigne encore aux programmeurs débutants, qu'on leur enseigne à écrire des programmes sans intégrer ça, sans intégrer l'ensemble des techniques qui permettent de faire une vraie internationalisation. Et un exemple que je cite dans mon livre, je crois, c'est que sur le service de développement de logiciels libres Microsoft Hub, qui s'appelait GitHub avant, sur Microsoft Hub, on ne peut pas créer un dépôt avec des caractères qui ne soient pas ceux utilisés dans l'anglais. Donc même simplement des lettres avec accent, je ne parle même pas de caractères chinois, Microsoft Hub le refuse. Enfin, GitHub déjà avant de refuser.
L'exemple que tu cites, tu as voulu créer un projet qui s'appelle Café, avec un E accentué, et ça ne passe pas.
Ça ne passe pas, alors qu'aujourd'hui, on a, contrairement à ce qu'il y avait il y a 20 ans, aujourd'hui, on a des outils techniques permettant de faire ça proprement, notamment le jeu de caractère Unicode, qui est un grand succès de l'informatique mondiale, puisque c'est un jeu de tous les caractères utilisés dans toutes les écritures actuellement vivantes, et même pas mal d'écritures qui sont maintenant mortes.
Et ça existe depuis combien de temps, Unicode ?
Unicode, ouah, bonne question. 15 ou 20
15
ans.
15 ou 20 ans, c'est vrai. Donc techniquement, ancien, aujourd'hui,
mais
ça fonctionne.
Les innovations en informatique ne diffusent pas. Il faut qu'elles passent dans les logiciels, il faut qu'elles passent dans les livres, dans la documentation, il faut qu'elles passent dans les cours. Je pense que beaucoup de programmeurs, quand ils apprennent à programmer, on ne leur apprend jamais Unicode. On leur apprend que le jeu de caractères restreint ASCII, qui convient juste pour l'anglais, et on ne leur enseigne pas les bases de l'internationalisation. Et ça, c'est embêtant, parce qu'une fois qu'un programmeur est formé, il va ensuite travailler pendant 20 ans, 30 ans, avec ce qu'il a appris, sans toujours se mettre à jour.
Et jeu de caractères ASCII, de mémoire, c'est 128 caractères. Unicode, c'est quoi ? Est-ce que tu sais combien de caractères c'est ?
Ouais, on en est à 100 000 et des poussières.
100 000 et des poussières. Donc ouais, on compare le caractère ASCII, donc enfin le jeu de caractères ASCII, donc 128 caractères par rapport aux 100 000 caractères que propose Unicode. Donc évidemment, l'internationalisation, c'est important. Et puis c'est vrai que tu le dis, l'anglais est ultra dominant dans l'informatique, et on dit souvent, vous devez apprendre quelques mots d'anglais pour faire un peu d'informatique. Mais comme tu le dis dans le livre, si on vous disait que ce serait du sawali ou du chinois, par exemple, vous le prendriez différemment parce que vous diriez non, c'est pas possible. Donc c'est un enjeu essentiel aujourd'hui. Et est-ce que d'ailleurs dans la culture logicielle, parce qu'on est quand même assez proche, enfin on est quand même très culture logicielle, est-ce que cette prise en compte de l'internationalisation est plus forte que dans, on va dire, la culture du logiciel privateur?
Je crains que non.
Mais c'est une vraie question. Hein,
pire, parce que il y a certains logiciels privateurs qui ont fait un gros effort d'internationalisation pour des raisons de simple marketing. Quand on veut vendre quelque chose, bah, c'est mieux si on peut le vendre dans tous les pays. Et par exemple, dans le consortium Unicode, les entreprises les plus actives dans ce consortium sont Microsoft, Apple, IBM, Google, qui ne sont pas toujours connues pour leur amour du logiciel libre. Donc, les motivations commerciales les poussent souvent à faire un effort d'internationalisation qui n'est pas toujours le cas dans le monde du logiciel libre. Il y a un travail à faire là-dessus. Mais c'est un travail qui est à faire pour tout le monde et qui nécessite aussi de lutter contre ses propres préjugés. Une des pages web les plus amusantes sur Unicode, c'est le même texte écrit en des dizaines de langues différentes. Et le texte dit à chaque fois, en français par exemple, le texte dit « Mais pourquoi ils ne peuvent pas simplement parler français ?» français comme tout le monde. Et ensuite, il y a le
excellent.
Même texte traduit dans chaque langue avec le nom de la langue modifié à chaque fois. Ça sert à la fois à tester techniquement les capacités Unicode de votre navigateur et les polices disponibles, et aussi à décentrer le regard pour qu'on s'aperçoive que l'étranger, il croit que l'étranger, c'est nous.
Voilà, il faut se mettre à la place de l'autre. Bon, en tout cas, je ne connaissais pas cette page, on rajoutera, tu m'enverras l'adresse, on rajoutera dans la page des références sur le site de l'April. Alors, on va passer à un nouveau sujet parce que malheureusement, le temps passe vite à la radio. Alors, un sujet peut-être un peu plus technique, hein, qui est, tu voulais parler des points d'échange et l'interconnectivité, tu vois, j'ai du mal à le dire. Alors, là, je crois que c'est lié vraiment à la notion que tu expliquais tout à l'heure d'Internet, un réseau de réseaux. Donc, est-ce que tu peux expliquer cette notion de point d'échange et d'interconnectivité et la problématique que cela peut poser à la fois en France et puis je crois que l'exemple dans d'autres pays beaucoup plus importants.
Le titre du livre « Cyberstructure » fait évidemment référence à la notion d'infrastructure parce que je trouvais dommage que sur Internet, on parle beaucoup des services que certains utilisent, Facebook, Google et tout ça, et pas de l'infrastructure qui, elle, est partagée et commune à tout le monde. On peut choisir de ne pas utiliser Facebook, on ne peut pas se passer de l'infrastructure d'Internet, c'est celle sur laquelle tout repose. Et cette infrastructure repose sur beaucoup de choses matérielles et humaines, les câbles qui connectent tout le monde, les machines qui sont à l'intersection des câbles, les humains qui s'en occupent. Et cette infrastructure a des propriétés qui peuvent aggraver ou au contraire faciliter certains usages. Par exemple, si deux internautes français veulent communiquer et qui sont chez des opérateurs Internet différents, il faut que ces deux opérateurs soient connectés quelque part entre eux et que les messages passent directement de l'un à l'autre. S'ils passent par un pays tiers, mettons au hasard les États-Unis, parce qu'en pratique, quand la communication entre deux pays étrangers passe par un pays tiers, c'est souvent les États-Unis. Si ça passe par les États-Unis, ça se traduit par des problèmes politiques, capacité d'espionnage ou de contrôle, voire de coupure de l'Internet accrue, soit par des problèmes plus techniques, comme par exemple l'augmentation du temps d'acheminement des données, qui peut se traduire par des ralentissements. Donc pour ça, il faut que les opérateurs soient massivement connectés et connectés le plus près possible. S'il y a deux opérateurs à Paris, il faut qu'ils soient connectés à Paris, ou à la rigueur à Lyon ou à Rennes, mais en tout cas pas à New York. Et ça se fait techniquement par plusieurs moyens. L'Internet, c'est vaste et il y a plein de solutions. L'un des moyens étant ces points d'échange. Parce que tous les opérateurs soient connectés avec tous les autres, ça nécessiterait beaucoup de câbles et beaucoup de complications. Donc le plus simple, c'est d'avoir un endroit neutre où tous les opérateurs peuvent amener un câble, se connecter au point neutre, le point d'échange, et après être mis ainsi en rapport avec tout le monde. Ce sont ces points d'échange qui font qu'aujourd'hui, un trafic entre deux opérateurs français pratiquement toujours reste en France, ou en tout cas ne va pas très loin. C'est à l'inverse le manque de ces points d'échange qui fait que dans beaucoup de pays du monde, la communication entre deux opérateurs du même pays passe par l'étranger.
Donc sort du pays. En fait, il faut que les gens comprennent, parce que les gens s'imaginent, effectivement, comme tu le dis, que si d'un point A à un point B dans un même pays, normalement, la communication reste dans le même pays. Mais en fait, dans de nombreux pays, ça sort du pays pour aller souvent donc, aux États-Unis avant de revenir dans le pays. Gens doivent être assez surpris d'entendre ça.
Ce qu'on appelle le tromboning, parce que ça a la forme d'un trombone. Et effectivement, par exemple, en Amérique latine, c'est courant que la communication entre deux opérateurs du même pays, ça dépend des pays, mais il y a beaucoup de pays où la communication entre deux opérateurs du même pays passe par Miami ou Houston avant de revenir, avec les conséquences politiques et techniques qu'on voit. Et là, la solution, elle est techniquement bien connue, c'est les points d'échange. Mais les points d'échange, c'est intéressant parce que techniquement, c'est quelque chose de relativement simple. Bon, les gens qui passent leur journée à gérer des points d'échange ne vont pas être d'accord.
Mais donc, en gros, techniquement, c'est un bâtiment dans lequel il y a des câbles, des gros câbles qui arrivent, et à l'intérieur, il y a des...
ce qu'on appelle un commutateur, c'est-à-dire un appareil sur lequel on branche les câbles qui redistribue ensuite le trafic, permettant à tout le monde d'être en communication avec tout le monde. Mais la difficulté n'est pas seulement technique, bien que, bon, il faut quand même qu'il y ait des gens qui s'en occupent, des gens compétents qui s'en occupent, mais la difficulté est surtout après... plus lié aux décisions business, encore faut-il que tout le monde ait envie de se connecter avec des opérateurs qui peuvent être des concurrents, voire des gens qu'on n'aime pas. Donc il faut une volonté aussi délibérée de se connecter pour que le trafic se passe dans les meilleures conditions. Or souvent, et là on en revient un peu au problème des GAFA, des gros opérateurs comme Google, Amazon, Facebook, c'est que souvent le raisonnement de l'opérateur, c'est de se dire « mais je m'en fiche que mes utilisateurs communiquent avec les utilisateurs de mon concurrent, ce qui m'intéresse c'est qu'ils aient un accès facile à Google, Facebook et tout ça ». Et donc on néglige le point d'échange ou les interconnexions locales au profit de connexions vers les centres de données de Facebook et autres gros intermédiaires, et le phénomène s'auto-renforce. Si ça va plus vite d'aller chez Amazon que chez le voisin,
les gens iront chez Amazon.
Et par exemple, un gouvernement, dans beaucoup de pays du monde, un gouvernement qui veut mettre des ressources qui sont pour tous les habitants du pays, des ressources publiques qui sont pour tous les habitants du pays, souvent la solution la plus rationnelle techniquement, c'est de le mettre chez Amazon de manière à avoir un service moyen qui soit le meilleur, alors qu'en le mettant chez un seul opérateur, on favorise, ça serait pas mal pour cet opérateur et moins bon pour les autres. Donc le problème vient aussi du fait que souvent les communications directes entre utilisateurs sont négligé. On se dit, on va passer par Facebook ou par Dropbox. Enfin, on voit, quand je vois dans une université en Afrique, l'enseignant qui met les ressources pédagogiques sur Dropbox, si bien que entre l'enseignant et l'étudiant qui sont à quelques mètres l'un de l'autre, le fichier va partir jusqu'aux États-Unis et retour sur des lignes internationales qui sont très encombrées. Et on dit qu'il y a un problème. C'est à la fois un oubli de ce que permet l'Internet, qui permet des communications pair à pair, et puis aussi dans certains cas une diabolisation du pair à pair qui, après des années de propagande, finit par être assimilé comme un outil de pirates, de marginaux, de gens dangereux.
Oui, parce que tout à l'heure, quand tu parlais de BitTorrent, hein, qui doit avoir peut-être une vingtaine d'années aujourd'hui, avec tout le travail, malheureusement, de l'Adopi et compagnie, qui ont consacré beaucoup de temps à faire croire que cette technologie était des technologies néfastes, alors qu'au contraire, c'est des technologies de l'Internet pour justement... C'est peut-être, je crois que d'ailleurs, à un moment, tu l'expliques dans le livre assez... de façon assez détaillée par rapport à cette centralisation des GAFAM et compagnie, que ce qu'il faut développer, c'est cette décentralisation, cette acentralisation, donc justement avec ces points d'accès et d'autres méthodes techniques dont tu parles. Que c'est la vraie solution, plutôt que d'essayer d'aller taper sur les gros, il faut permettre, comme tu le dis, aux petits de pouvoir exister et aux échanges locaux directement d'avoir lieu.
Surtout que l'Internet permet techniquement cette communication pair à pair. Et donc utiliser l'Internet pour que tout le monde aille se connecter à un gros service centralisé, c'est vraiment ne pas utiliser l'Internet pour correctement, c'est ne pas l'utiliser pour ce qu'il sait faire, c'est avoir un mode d'utilisation Minitel avec un réseau qui justement n'est pas architecturé pareil et conçu pour le pair à pair.
D'accord. Et t'es optimiste sur ce point de vue-là, sur cette compréhension, notamment au niveau des politiques, des entreprises et autres?
Je crois que je vais citer Alan Kay qui disait à propos du développement logiciel, mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses, qu'il ne faut pas se demander de quoi sera fait le futur, il faut le faire. Je ne sais pas si ça se fera ou pas. Je sais que c'est ça qu'il faut faire et c'est ça où il faut consacrer des efforts pour expliquer ça aux gens, pour le rendre possible, plus facile, lutter contre cette diabolisation du pair à pair, avoir plus de logiciels qui permettent de faire ça. Par exemple, dans le domaine de la communication interpersonnelle, des systèmes décentralisés comme ceux autour du protocole ActivityPub plutôt que Facebook ou Twitter. C'est ce genre de choses qu'il faut faire et est-ce que ça réussira ou pas, c'est une autre histoire.
Alors justement, je n'avais pas forcément prévu d'en parler aujourd'hui, mais tu parles d'ActivityPub. L'un des outils, l'un des services en tout cas qui se développe de plus en plus autour de ça, c'est Mastodon. Donc est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est Mastodon par rapport justement à Twitter et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va vraiment prendre, qui va pouvoir recréer réellement cette relation pair à pair?
Alors, Mastodon est un logiciel libre en plus, qui permet de la communication interpersonnelle, l'échange de messages, de photos, de vidéos, enfin rien d'extraordinaire de ce point de vue-là. Ce qui fait son intérêt, c'est que ce n'est pas un service avec ses règles d'utilisation, avec sa politique qu'il s'impose aux utilisateurs. C'est un logiciel qu'on peut installer chez soi ou qu'un groupe peut installer ou qu'une organisation peut installer. Ce n'est pas forcément M. Michu qui le fait lui-même. Ça peut passer par n'importe quel groupe ou organisation. Et ensuite, une fois qu'on fait ça, les gens peuvent communiquer non seulement chez ceux qui utilisent le même service avec le logiciel Mastodon, mais aussi avec les autres en utilisant donc ce protocole ActivityPub. C'est d'ailleurs pas juste Mastodon, il y a d'autres logiciels qui mettent en œuvre ce protocole et qui communiquent entre eux. C'est encore pour l'instant un petit peu rude des fois, il y a quelques problèmes, mais globalement ça fonctionne déjà pas mal. Savoir si ça s'imposera, je n'en sais rien, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, j'en sais rien, et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que ça soit connu, utilisé, sans faire de pronostics sur l'avenir. Les pronostics sont très...
Tout en informatique.
En informatique, c'est très incertain, et on s'est souvent planté. À chaque fois que j'entends quelqu'un me dire sur un ton assuré, mais non, jeune homme, voyons, votre truc, ça marchera jamais, tout le monde utilise Facebook, vous voudriez pas que Mme Michu utilise votre truc, là, ActivityPub, enfin, ça n'a pas de sens. À chaque fois que j'entends un monsieur sérieux, un éditorialiste, un ministre qui parle comme ça, je repense à ce que ces gens-là disaient de l'Internet il y a 25 ans. Non, mais c'est un jouet, ça ne marchera pas, c'est un réseau expérimental, ça ne sera jamais utilisé. Bon, et clairement, ils se sont complètement trompés, donc il n'y a pas de raison que ça soit mieux aujourd'hui.
Et en parlant d'ActivityPub, il y a aussi un nouveau service récemment, notamment porté par l'association Framasoft, un de nos amis de Framasoft, qui est PeerTube, qui permet d'héberger des vidéos sur le même principe de pair à pair. Donc c'est quelque chose... L'enjeu va sans doute être d'arriver à convaincre les gens d'aller ou en tout cas d'utiliser aussi ces réseaux-là. Je pense que ton livre y participe grandement, justement en expliquant l'importance de ce pair à pair et de mettre un terme à cette diabolisation. On en discutait tout à l'heure en arrivant dans le métro avec mon collègue Étienne Gonu. La DOPI va fêter ses 10 ans aujourd'hui, 10 ans néfastes. On peut espérer que maintenant, on va pouvoir revoir du bon côté de ces échanges directs entre personnes, qui est la base même d'Internet. Alors, le temps passe, on va essayer d'aborder les derniers sujets qu'on souhaitait aborder. Un autre sujet qui est évoqué dans le livre, et tu en parlais au tout début, je crois, c'est la tension entre la sécurité et les autres droits humains, et notamment le rôle que peuvent jouer un certain type d'intermédiaire. Tout à l'heure, quand on parlait de neutralité, tu parlais du rôle de l'intermédiaire qui devait rester dans son rôle. Il y a aussi un autre intermédiaire, c'est les personnes qui développent des logiciels, qui mettent en place des applications. Donc, de ce point de vue-là, quelle est la situation, notamment sur les magasins d'applications sur téléphone mobile ?
La question est compliquée. D'essayer de sécurité, c'est compliqué. Enfin, sauf si on est ministre de l'Intérieur et qu'on assène. La seule chose qui compte, c'est la sécurité. Les libertés, tout le monde s'en fiche. Monsieur Michu s'en moque de toute façon. Ce que veulent les gens, c'est être en sécurité. Et pouf, on empile loi liberticide après loi liberticide. Dans ce cas-là, la situation est simple. Si par contre, on a une approche plus centrée sur les droits humains, la situation est compliquée parce que on souhaite de la sécurité, tout le monde en souhaite. On n'a pas envie que son ordinateur se fasse pirater, par exemple. Mais ça ne doit pas être à n'importe quel prix. Et surtout, ça doit être fait intelligemment. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les mesures dites de sécurité vraiment nous apportent de la sécurité ou pas? Et ça, ce n'est pas garanti du tout. Un exemple, c'est que, prenons Apple pour prendre un exemple. Quand vous achetez un Mac, vous pouvez mettre dessus le logiciel que vous voulez, en tout cas pour l'instant. Quand vous achetez un iPhone de la même société, vous ne pouvez pas. Vous pouvez mettre que ce qui est sur le magasin d'applications d'Apple, l'App Store. Et c'est Apple qui décide ce qui peut y aller ou pas. Des fois, Apple laisse entendre que ça serait pour des raisons de sécurité, que c'est fait. Ils ne le disent pas trop fort, parce qu'ils n'ont pas envie d'être considérés comme responsables si une application sur l'App Store se révèle en fait être une application dangereuse. Donc, Apple ne matraque pas trop cette histoire de sécurité, mais il le laisse entendre. Et en fait, c'est bidon, évidemment, parce que faire un audit de sécurité sérieux de toutes les applications, ça serait un énorme travail. Donc Apple contrôle en fait ce qu'on peut installer sur son téléphone. Alors, l'argument qui est donné est l'argument classique de tous les gens qui regardent M. Michu de haut en disant « mais non, mais il est bête, il ne peut rien comprendre, on le fait pour lui ». On gère ça pour lui, on fait un environnement bien propre, bien sûr, bien rassurant, avec des choix bien balisés. Et on voudrait qu'en fait, c'est une approche courante qui est, on voudrait réduire le choix à un petit nombre de choix inoffensifs dans ce qu'on a décidé. Le vrai problème n'est pas est-ce que c'est bon pour la sécurité ou pas, c'est déjà qui décide. Au cas de l'App Store, c'est simple, c'est Apple tout seul. On pourrait estimer que ça serait intéressant, effectivement, pour M. Michu, qu'il y ait un système de tri, de curation, pour utiliser des grands mots, des applications qui permettraient d'éviter qu'on installe n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des tas de logiciels libres qui fonctionnent comme ça. La notion de magasin d'applications, ce n'est pas Apple qui l'a inventé.
C'est le logiciel libre avec les projets Debian et compagnie.
Voilà, un système comme Debian est un bon exemple où il y a des dépôts officiels. On peut en rajouter d'autres si on veut, mais il y a par défaut des dépôts officiels où il y a un minimum de vérification et une infrastructure à la fois technique et humaine qui permet de traiter le cas d'une application qui s'avérerait boguée, malveillante, etc. Donc là, le système fonctionne et on sait surtout sur quels critères c'est décidé. Alors, après, en pratique, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais au moins sur le papier, on a une politique de qu'est-ce qui va ou pas dans le magasin d'application Debian qui est claire et qui est transparente, au sens où on voit ce qui se passe, on voit les problèmes, on peut ne pas être d'accord, mais on les voit. C'est ce qui manque complètement dans les systèmes de contrôle comme l'App Store d'Apple, où il n'y a aucune supervision extérieure, on ne sait pas ce qui est fait, ce qui est décidé, et on peut soupçonner, probablement à juste titre, que Apple n'est pas juste motivé par le bien des utilisateurs, mais aussi par ses propres intérêts. Donc là, on a une question qui est importante. Pour reprendre l'exemple du logiciel libre, la question s'était posée récemment avec l'affaire de ce pactage malveillant qui avait été mis dans NPM, le système des applications JavaScript pour Node, où il y avait apparemment un mainteneur qui avait confié la maintenance de son projet. Il arrêtait, ce qui est courant dans le monde du logiciel libre, et il avait confié la maintenance à un volontaire, quelque chose qui arrive tous les jours dans des tas de logiciels libres. Mais il se trouve que le volontaire était en fait un malveillant et qui avait mis du code malveillant qu'après des tas d'utilisateurs utilisateur, sans s'en rendre compte, téléchargeait. On a entendu à ce moment-là beaucoup d'appels à... Enfin, beaucoup de mouvements de menton, de coups de poing sur la table, genre c'est intolérable, il faudrait faire quelque chose, il faudrait qu'il y ait quelque chose, alors le CSA, l'ADEPI, je ne sais pas, qui vérifie tous les pactages NPM et qui... Et sans même parler de l'aspect irréaliste de la question, la plupart du temps, ça gommait complètement l'aspect politique. Qui va décider ? Qui va décider et sur quel mécanisme ? Ça repose... Quand il s'agit de sécurité en informatique, c'est toujours présenté comme quelque chose d'apolitique. Ce sont juste des décisions techniques. Et en fait, non, les décisions prises pour des raisons de sécurité sont toujours politiques. Donc on va exclure certaines choses ou pas. Et c'est là ça qui devrait être transparent et visible à tout le monde. Ce qui n'est pas du tout le cas avec l'App Store ou son concurrent de Google, qui n'est pas mieux.
Tout à fait. Dernière question. Quelle piste tu donnerais aux personnes aujourd'hui qui auraient envie, une fois qu'elles ont lu ton livre, d'en savoir plus justement sur la technique ? Est-ce qu'il y a des formations qui existent ? Est-ce qu'il y a des sites à consulter ? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour essayer d'aller peut-être un peu plus loin, pour devenir peut-être un peu plus acteur et actrice de ce mouvement et de cette construction de ce futur Internet dont on a parlé un peu aussi ? On ne sait pas ce que ça va donner, mais au moins, il faut agir.
Sur l'aspect technique... Non, il n'y a pas une bonne solution simple. La meilleure pour l'instant, curieusement pour une technique du XXIe siècle, elle est assez traditionnelle. C'est l'échange avec les pairs, PAIR, les pairs humains, pair à pair, avec les pairs humains, les associations, les organisations comme RIP, NANOG, FRNOG en France, les associations, tous les mouvements autour du logiciel libre où les gens se rencontrent, discutent, échangent et c'est comme ça qu'on acquiert des informations. J'étais à Bruxelles au FOSDEM il n'y a pas très longtemps. Le FOSDEM, c'est un endroit où se réunissent tout un tas de gens qui travaillent entre autres sur les réseaux. J'ai surtout suivi les sessions qui avaient un rapport avec l'Internet. Il y a énormément de gens qui se rencontrent, qui échangent, et c'est là qu'on acquiert les compétences, qu'on approfondit les questions. Sur les aspects un peu plus politiques, malheureusement, en France, il faut bien constater que les questions liées à l'Internet sont souvent dépolitisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues par des questions politiques, même quand elles le sont. Par exemple, la défense des droits et libertés sur Internet, qui devrait être la tâche de tous les partis politiques qui se prétendent défenseurs des libertés, en pratique, est surtout prise en charge par des organisations spécialisées, comme la Quadrature du Net, qui fait un excellent travail, mais ça n'est pas normal que ce soit une association spécialisée Internet qui fasse ça, ça devrait être, c'est un problème plus général et qui devrait être pris en charge par tous ceux qui disent défendre les droits humains.
Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans le projet de loi pour une école de la confiance, dont je parlerai tout à l'heure, il y a eu des amendements qui ont été proposés justement pour introduire une sorte de formation aux humanités numériques. Je crois que c'est le terme qui avait été employé par un des amendements, parce que traditionnellement, malheureusement, dans les écoles, on informe plus sur les méfaits ou les dangers de l'Internet plutôt que sur les possibilités offertes justement par Internet. Écoute, Stéphane, cette discussion va bientôt se terminer. Je profite pour signaler à la régie qu'on va passer bientôt une pause musicale. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le livre ou sur autre chose ?
Je pense que c'est bien de terminer avec effectivement les humanités numériques parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, où une part si importante de notre vie est passée sur Internet ou se fait via Internet, c'est si on ne comprend rien, si on est complètement largué par l'Internet, on ne peut pas vraiment exercer ses droits de citoyen, on ne peut pas vraiment comprendre les débats ou comprendre les enjeux. Donc, il y a dessus un gros effort à faire qui n'est ni un... C'est pas de mode d'emploi dont on a besoin. Les utilisateurs savent parfaitement utiliser Internet. C'est pas non plus de leçons, effectivement, moralisatrices du genre « Oulala, Internet, c'est dangereux, vaut mieux pas s'en servir ». C'est plutôt de comprendre ce qui se passe derrière, comprendre les choix qui ont été faits, comprendre, par exemple, que le tri qui est fait par Google quand on tape une recherche n'a rien d'innocent. Il reflète des opinions et des choix. C'est comprendre qu'en matière de sécurité, effectivement, les choix qui sont faits en matière de sécurité, de cybersécurité, comme tous les choix en matière de sécurité, peuvent être discutés. Ils sont contestables. Ils doivent être discutés. C'est comprendre qu'on ne doit pas être passif vis-à-vis de l'Internet avec l'argument « Oh, c'est de la technique, j'y comprends rien », mais qu'au contraire, c'est toute notre vie. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de la comprendre et d'y participer.
En tout cas, j'espère qu'on a contribué à ça. J'encourage évidemment toutes les personnes à acheter le livre « Cyberstructure » de Stéphane Bortzmeyer. Donc, dans toutes les bonnes librairies, n'hésitez pas à le commander. Vous pouvez aussi le commander sur le site des éditions CF Éditions. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Hadopi, et je vais rappeler aussi qu'en 2009, justement dans le cadre de l'étude de la loi Hadopi, le Conseil constitutionnel avait fait de l'Internet une composante de la liberté d'expression, considérée comme un droit fondamental auquel seul un juge peut porter atteinte, et en aucun cas le pouvoir administratif. Les personnes qui suivent les dossiers actuellement sur Internet, enfin, du gouvernement, verront à quoi je fais référence. En tout cas, voilà, ça fait 10 ans que le Conseil constitutionnel a rappelé ce point essentiel.